Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Des jeunes filles sont victimes de mystérieux malaises depuis des semaines en Iran. Le gouvernement iranien est accusé d'empoisonnement massif. La situation inquiète, mais alors qu'en est-il ? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Voici donc le sujet à la une de notre format des actualités du jour aujourd'hui. Alors, ces mystérieux malaises, ils sont dus à des empoisonnements qui auraient commencé fin novembre dans une école primaire de la ville de Qom au sud de Téhéran, qui est donc la capitale du pays, lorsque 18 petites filles de cette école ont été emmenées à l'hôpital. Ensuite, ces empoisonnements se sont répandus dans plusieurs villes d'Iran et dimanche d'ailleurs, plusieurs écoles élémentaires, collèges et lycées ont été la cible d'intoxication. Les victimes souffrent toutes des mêmes symptômes, à la fois des douleurs à la poitrine, jambes qui tremblent, des vertiges ou encore des membres engourdis. Alors pour l'instant, c'est très difficile d'évaluer exactement le nombre de jeunes filles qui ont été envoyées à l'hôpital ou encore celles qui sont dans un état critique. Mais il faut savoir que depuis fin novembre, plusieurs centaines de cas d'intoxication ont été signalés dans au moins 52 établissements scolaires en Iran. C'est ce qu'indiquent en tout cas des chiffres qui ont été publiés par le gouvernement iranien et du coup, eh bien, la source de ces chiffres pose question. Je reviens là-dessus juste après. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, tous ces malaises sont survenus après avoir respiré des odeurs jugées désagréables au sein même de ces établissements scolaires. Les victimes décrivent une odeur de mandarine ou alors de poisson pourri. Et face à l'inquiétude des familles des victimes, le gouvernement a donc fini par ouvrir une enquête le 26 février. Et selon les premières conclusion du gouvernement, il s'agirait d'attaques perpétrées par des extrémistes religieux qui voudraient fermer les écoles des filles. Cependant, aucune arrestation n'a eu lieu pour le moment et selon le journal Le Monde, le régime va même jusqu'à faire porter la responsabilité aux jeunes filles victimes en les accusant de créer avec ces malaises, je cite, le désordre dans leurs établissements scolaires. Ça c'est donc la version officielle aujourd'hui du gouvernement iranien, soit accusé des extrémistes, soit eh bien simplement accusé directement les jeunes filles. Mais il faut savoir que ces mystérieuses intoxications, eh bien, elles surviennent alors que l'Iran est traversé actuellement par une contestation inédite depuis le mois de septembre et depuis la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans qui est décédée après avoir été arrêtée car elle ne portait pas son voile correctement. En effet, en Iran, le port du voile est aujourd'hui obligatoire pour les femmes au sein de ce régime islamique qui est présent en Iran. Et donc, pour certains opposants au régime iranien, ces intoxications, elles auraient pour but d'étouffer le mouvement de contestation qui secoue le pays depuis des mois et donc intimider les manifestants. Et pourquoi donc les jeunes filles en particulier ? Eh bien, tout simplement car c'était surtout des jeunes iraniennes qui étaient en première ligne des manifestations. On a vu notamment pas mal d'images de jeunes femmes qui enlevaient leur voile, voire le brûlaient. Du coup, depuis quelques jours, eh bien, des manifestations pour dénoncer ces empoisonnements ont eu lieu. Et certains donc accusent le régime iranien d'être directement ou indirectement en lien avec ces empoisonnements. D'ailleurs, ce qui inquiète pas mal la population aujourd'hui, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment si les symptômes disparaissent avec le temps. En effet, selon des médias locaux, eh bien, dans la ville où ont démarré ces empoisonnements, un père a indiqué que sa fille ne pouvait toujours pas marcher sans déambulateur et qu'elle avait encore des vertiges et des problèmes de vision 2 semaines après avoir été empoisonnée. Autrement dit, il y a un doute qui persiste là-dessus. Du coup, l'inquiétude persiste et surtout le flou important dans ce pays où la liberté de la presse est très très faible, ce qui fait donc qu'on a du mal à avoir beaucoup d'informations sur place. En tout cas, les Nations Unies ont réclamé au plus vite une enquête transparente et des conclusions publiques de la part du régime iranien. Je vous tiens au courant du coup évidemment dans les prochains jours et je vous mets dès maintenant des liens en description. En attendant, je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref.
Merci Hugo, salut tout le monde. On commence avec un bilan de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'était aujourd'hui la 7e journée de mobilisation depuis le début du mouvement et elle a été marquée par un record de mobilisation dans la rue selon les syndicats. Ils ont parlé d'une mobilisation historique. Selon eux, il y avait 3,5 millions de manifestants dans toute la France. Ça serait selon eux 1 million de plus que le 31 janvier dernier qui était jusqu'ici le jour avec la plus forte mobilisation mobilisation. Alors de son côté, le ministère de l'Intérieur donne des chiffres moins élevés. Il y aurait eu 1,28 million de manifestants dans toute la France, à peine un tout petit peu plus que le 31 janvier, où le ministère avait parlé d'1,27 million. Dans le détail, ce mardi, dans les écoles, collèges, lycées, 60% des enseignants étaient en grève, selon les syndicats. Alors le ministère de l'Éducation nationale, lui, parle de seulement 33%, qui serait un taux moins élevé que lors de la journée du 19 janvier. Il faut noter aussi qu'il y a eu des blocus devant plusieurs lycées et universités en France. Dans les transports, il y a eu 40% de grévistes à la SNCF. Et on vous en parlait hier, dans plusieurs secteurs, les appels à la grève étaient reconductibles de jour en jour, et donc les grèves vont aussi se poursuivre dans les jours à venir. Ce mercredi, le trafic des trains restera notamment très perturbé. Il n'y aura que un TGV sur 3 et un TER sur 3. Deuxième actu, le gouvernement chinois a fait plusieurs déclarations remarquées contre les États-Unis, évoquant un risque de conflit si les États-Unis ne font pas évoluer leur position. Ça arrive dans un contexte de forte tension, autour déjà de la question de Taïwan, que la Chine revendique, autour des accusations d'espionnage avec le ballon chinois, ou encore de la guerre en Ukraine. Et alors justement, à propos spécifiquement de la guerre en Ukraine, le ministre chinois des Affaires étrangères a nié les accusations des États-Unis disant que la Chine fournirait des armes à la Russie. Au contraire, il a critiqué le rôle des États-Unis dans cette guerre. Il les a accusés d'être une main invisible qui alimenterait le conflit en Ukraine. En gros, selon lui, les sanctions et les pressions américaines ne résoudront pas la guerre. Il faudrait au contraire développer le dialogue et pousser vers des négociations de paix. Bref, c'est une nouvelle preuve de la nouvelle posture diplomatique de la Chine dans cette guerre et des fortes tensions entre la Chine et les États-Unis en ce moment. Le président chinois Xi Jinping a lui aussi fait une déclaration. Il a accusé les Occidentaux de mener une répression contre la Chine pour l'isoler sur la scène internationale. Troisième info, ça parle aussi de géopolitique, mais cette fois entre la Corée du Sud et le Japon. Le gouvernement sud-coréen a proposé au Japon un plan historique pour régler une question de grande tension entre les deux pays, le dédommagement des victimes du travail forcé pendant la période de colonisation de la Corée du Sud par le Japon. En fait, entre 1910 et 1945, la Corée a été occupée par le Japon. Vous le savez si vous avez vu notre vidéo sur l'histoire des deux Corées qu'on a sorti il y a quelques semaines sur notre chaîne principale Hugo Décrypte. Pendant cette période de colonisation, plus de 780 000 Coréens ont été déportés au Japon et ont été forcés à travailler dans des usines dans des conditions très dures, parfois jusqu'à en mourir. Et alors, en 1965, le Japon a versé 500 millions de dollars à la Corée du Sud pour réparer les préjudices de ce travail forcé, ce qui, selon le Japon, réglait complètement et définitivement la question. Le truc, c'est qu'en 2018, la justice sud-coréenne a condamné des entreprises japonaises à verser 1 million d'euros aux victimes du travail forcé et a donc rouvert le dossier. Et donc finalement, si on en parle aujourd'hui, c'est que ce lundi, pour régler définitivement cette question et apaiser les tensions entre les deux pays, le gouvernement sud-coréen a annoncé la création d'une solution pour régler la situation avec la création d'une fondation qui va pouvoir récolter des dons, notamment potentiellement d'entreprises japonaises peuvent de manière volontaire contribuer pour indemniser les victimes. Ça va donc réchauffer les relations entre les deux pays. Ceci étant, ça ne satisfait pas les groupes de victimes qui trouvent que cette situation n'est pas suffisante et qui auraient voulu de nouvelles excuses du Japon. Quatrième actu, selon l'ONU, l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde ne sera pas atteinte avant au moins 300 ans. C'est ce qu'a déclaré son secrétaire général, Antonio Guterres, en évoquant en fait de nombreux cas de recul des droits des femmes dans le monde. Il a parlé par exemple du cas de l'Afghanistan, où depuis le retour au pouvoir du groupe islamiste armé des talibans en 2021, eh bien les femmes n'ont plus le droit de faire des études supérieures, de voyager sans être accompagnées d'un homme, ou encore d'exercer la plupart des métiers. Mais il a aussi mentionné des situations dans les pays développés, par exemple dans le secteur des sciences, en disant par exemple que seulement 3% des personnes qui ont déjà gagné un prix Nobel sont des femmes. Bref, c'est donc une formule choc qui est une invitation à agir, et ça intervient alors que ce 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. On continue avec une note positive en France. Ça a été annoncé ce lundi par la première ministre Elisabeth Borne dans une interview. Certaines protections hygiéniques seront bientôt remboursées par la sécurité sociale pour les moins de 25 ans. Alors ça concernera spécifiquement les protections périodiques réutilisables. Ça sera à partir de 2024. Pour être remboursé, il faudra les acheter directement en pharmacie, mais sans avoir besoin d'une ordonnance. Il faut savoir qu'en France, selon un sondage de l'association Règles élémentaires, près de 4 millions de personnes seraient concernées par la précarité menstruelle, un chiffre deux fois plus élevé qu'en 2021. On termine avec une dernière info. Vous vous souvenez peut-être du fiasco de la dernière finale de Ligue des Champions de foot au Stade de France à Paris, qui avait été marqué par de gros incidents. Et bien ce mardi, il y a eu une décision symbolique. L'UEFA, l'instance qui gère le foot en Europe, a décidé de rembourser tous les supporters du club anglais de Liverpool qui avaient un billet pour la finale. C'est symbolique parce qu'au départ, les supporters de Liverpool avaient été accusés d'être responsables de ces débordements, notamment par les autorités françaises. Mais finalement, un rapport indépendant avait pointé du doigt plutôt les dysfonctionnements dans l'organisation et dans la sécurité autour du stade. Et donc par ce remboursement des billets, bien l'UEFA se place finalement aussi du côté des supporters de Liverpool.
Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck.
On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.